Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée donc au live de la draft NFL édition 2022, donc qui va démarrer dans quelques secondes. Je vais couper mon retour tout de suite qui va me perturber. Voilà, c'est tout, c'est coupé tout de suite de mon côté. Ce sera beaucoup plus agréable. Donc la draft 2022, la mystérieuse draft 2022 qui nous attend dans quelques minutes du côté de Las Vegas dans le Nevada. Vous le voyez, il est à mes côtés. Nous avons un envoyé spécial du côté de Marseille. Il a joué le jeu comme chaque année. Hein. C'est aussi pour ça qu'on l'aime, monsieur Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi.
Hey, salut Grégory, salut Camille et bonjour à toutes et tous.
Tout à fait, Camille Sarabène qui est avec nous à la technique, salut Camille.
Salut à tous, salut.
Et on devrait retrouver d'ici quelques petites secondes Victor Roulier, qui vous le savez, hein, était un petit peu l'ambassadeur draft ces dernières heures. Enfin, en tout cas, vous avez pu le suivre notamment sur le fauteuil, déjà sur la page Twitch de TDA pour analyser un petit peu les forces en présence, tout planter un petit peu le décor de cette édition. On se répète un peu, mais pour le moins indécise, avec notamment pas mal d'incertitudes concernant ce premier choix de la draft. On va y revenir tout à l'heure. Il y a pas mal d'interrogations qu'on abordera, sachant que voilà, la draft est prévue de démarrer aux alentours de 2h du matin. Ce sera vraisemblablement un tout petit peu après 2h. En l'occurrence, j'essaie de voir si je peux remettre la main sur le chat. Là, voilà. J'ai réussi. Normalement, c'est Victor qui est de corvée chat, si je peux parler ainsi. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être avec nous. Vous êtes déjà plus de 200 à être là. Bonjour à El Magnifico 3 qui est là. Sarah Baer également, que j'ai aperçu sur le chat tout à l'heure. J'attends que les messages défilent un petit peu, mais... Tac. Elliot Sa qui nous dit, bah c'est Elliot, c'est notre camarade de la couverture draft sur TDA, qui nous dit que Jean-Michel est toujours aussi brillant en cravate et on le confirme. Voilà, ça, c'est difficile de dire le contraire. Et puis également Seahawks France qui est de l'autre. Donc bonjour à notre camarade Clément, si je ne dis pas de bêtises. Jean-Michel, l'heure est grave, j'ai presque envie de dire. Il va y avoir pas mal donc. De questions à se poser sur cette draft 2022, la question du quarterback, la question du numéro 1 de la draft. Ça va venir notamment sur cette question du numéro 1. On aura le temps d'en reparler dans quelques secondes, mais plantons déjà le décor tout de suite, puisque a priori, il y a de très fortes chances qu'on ait affaire à un edge rusher en tout premier choix de la draft. Ce ne sera peut-être pas celui auquel on pensait initialement.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, depuis quelques semaines, il y a... cette hype qui monte sur Travon Walker, voilà, c'est un joueur qui a fait une superbe saison avec Georgia et puis il a des grandes qualités athlétiques, il est polyvalent, il rappelle au general manager des choses qu'ils ont connues. Je veux dire, par exemple, Trent Baalke, il se souvient d'avoir drafté Arik Amstead. Travon Walker, il y ressemble, mais dans une meilleure version. Donc, il fait un peu figure de favori. Et puis, il ne faut quand même pas oublier non plus Dan Hutchinson. Sait-on jamais, ça pourrait être lui aussi le premier choix de la draft. En tout cas, comme tu le dis, ça devrait être un pass rusher. Historiquement, quand les franchises ont back-to-back un pick comme ça dans le top 2, ils y vont un coup en attaque, un coup en défense pour avoir vraiment un visage de la franchise des deux côtés du ballon. On se souvient des Lions avec Matthew Stafford, ensuite ils ont pris Nagumo Kansou. Plus récemment, c'était les Browns. Ils étaient d'abord allés sur Miles Garrett, l'année suivante sur Baker Mayfield. Donc a priori, les Jaguars devraient faire la même chose, même s'il y a toujours cette petite inconnue. Et si finalement c'était un offensive tackle, genre Ikem Ekwonu ou Evan Neal, sait-on jamais. Mais bon, a priori, on se dirige vers un pass rusher pour le premier choix.
Tout à fait. J'en profite pour saluer Monsieur Victor Roulier qui est avec nous, a priori. Salut Victor.
Bonjour à tous.
Ça y est, tu t'es remis de ton petit marathon de ces dernières heures. Enfin, qu'est-ce que je dis de ces dernières heures depuis ce matin, très tôt jeudi.
Ouais, non, c'était pas évident, mais écoute, on est ensemble jusqu'à 7 h du matin, donc ça va être sympa.
Tout à fait. Je vais enchaîner du coup en te posant la question, vu qu'on avait déjà un petit peu démarré en évoquant ce premier choix qui est extrêmement indécis encore à l'heure où on se parle, hein, même si encore une fois, il y a Jean-Michel en parlait, cette hype Trayvon Walker qui ne cesse de grimper. C'est vrai, ça aussi, il en parlait, il y avait cette question d'un tackle possiblement en numéro 1. C'est quand même une rumeur qui a pris un peu de plomb dans l'aile, a priori, si on se fie à la récente prolongation de Cam Robinson.
Oui, on va dire que on est quand même sur une draft très incertaine. Aujourd'hui, il y a trois tackles et trois edge qui peuvent, on va dire, postuler au premier choix, et ça serait pas quelque chose d'étonnant. Malgré tout, tu l'as dit, la prolongation de Cam Robinson fait que le poste de edge semble être le favori. C'est vrai que Trayvon Walker a le vent en poupe, ce qui me paraît toujours aussi surprenant, même maintenant. Mais malgré tout, si on entend les rumeurs, Balke serait plutôt pro Walker, Kane serait plutôt pro Hutchinson.
Ouais,
Après.
c'est déjà les trucs qui démarrent sous les bons auspices. Quand déjà le GM et le proprio sont pas d'accord, visiblement en interne, c'est toujours un cercle à venir. Ouais.
Oui,
Ouais,
j'ai
alors, si.
entendu.
Oui.
Pardon. Et j'ai entendu dire que Doug Peterson était plus pour Equanu. Donc voilà, ça rajoute encore plus, quoi.
Oui, après, encore une fois, voilà, avec le recrutement de Robinson, c'est à voir. Mais c'est vrai que, on va dire, dans une franchise bien gérée, théoriquement, c'est GM qui décide. Mais ce serait pas étonnant de voir un propriétaire imposer son choix. Donc, à voir, ça me paraîtrait quand même logique de prendre Hutchinson. S'ils choisissent Walker, bah, faudra pas se plaindre quand ils perdent des matchs dans les années à venir.
Oh, oh,
Tout à fait. Voilà, le décor est planté pour les fans des Jags, dont Jean-Michel fait partie, hein. On sait que
oh.
ce
J'aime bien,
pic
c'est
de
vrai.
Jacksonville va t'intéresser au plus haut point, mon petit
Ouais.
Jean-Michel. Est-ce que, d'un préférence purement personnelle, encore une fois, on ne va pas trop s'avancer, parce que ce premier choix, on va y venir. Et il y a malgré tout eu des rumeurs, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a aussi ces fameuses histoires de possibles trade-down des Jaguars. Alors après, il y a les fameux écrans de fumée. Est-ce que c'est cohérent, pas cohérent, surtout dans une classe où. Sans vrai quarterback, vraiment d'impact attendu, enfin d'impact immédiat, en tout cas de joueurs qui arrivent avec la trempe, la réputation de Trevor Lawrence comme l'année passée. Si toi, à titre purement personnel, alors on parle même pas de projection, si tu es general manager des Jags, vers qui va ta préférence avec ce premier choix?
Ah, ben j'irai pour celui qui est à l'image en ce moment sur le NFL Network, c'est-à-dire Aidan Hutchinson, parce que voilà, il me donne beaucoup de garanties. Ça fait quand même 2 saisons qu'on le voit produire à Michigan, c'est pas n'importe où. Il semble tout avoir. Je dirais, il a la taille, il a les moves football, il a le QI football, c'est quelqu'un de sérieux, il n'y a aucun souci hors du terrain, c'est un travailleur, il a les qualités athlétiques. Je veux dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vraiment construire une franchise. Donc du coup, moi, ma préférence, ça serait sur Aidan Hutchinson. Je serais moins choqué que Victor et un peu plus optimiste si c'était Trayvon Walker, mais bon, voilà, si c'est ta question, si c'était moi qui étais en charge, je prendrais Aidan Hutchinson.
Alors, juste un tout petit réglage pour qu'on soit bien synchro, parce que l'année dernière, c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Il y a des petits décalages. Victor, est-ce que tu t'es bien connecté sur le lien? Camille, sur le site interne, enfin en tout cas sur la page interne de TDA.
Absolument pas. Absolument pas. Oui,
Parce que
d'ailleurs, je
du
voudrais
parce
dire
que
vas-y, Jean-Louis.
aux gens du chat, là, je viens de parler d'Aidan Hutchinson à l'antenne, mais en fait, c'est sur ESPN. On est sur
Oui, il est passé
ESPN, nous.
sur
Voilà.
ESPN. Ouais, il en a
Peut-être que je les
interviewé
ai
notamment
perdus, ils
avec
ont dit
Mel
ah bon,
Kiper.
Moi, j'ai pas particulièrement prévu d'avoir l'image. Moi, je préfère être avec vous et voir les choix en direct ensemble, hein, pour le coup.
D'accord, ça va, oui. C'est, donc, je fasse des trucs comme ça. Et...
C'est ça, moi, je préfère voir un Jean-Michel qui fait « Oh !»
On te rappelle, Jean-Mi, c'est un même par live. Hein. T'es pas au courant, mais normalement, c'est contractuellement, ça. C'est comme ça que ça se passe. Non, voilà, bon, en tout cas, voilà, si tu veux suivre avec nous, Victor, essaie de te mettre sur le lien, peut-être ESPN. On a vu que c'était un petit peu en avance par rapport à d'autres. Mm. J'en profite d'ailleurs pour rappeler... T'as le chat devant toi, Victor ?
Je vais le mettre. C'est justement ce que j'étais en train de faire. Bien, moi, j'ai été pris au dépourvu. J'étais prêt pour deux heures. Mais...
du coup, je n'oublie pas les gens qui sont sur le chat. Hein. J'en profite d'ailleurs pour saluer d'autres personnes qui sont avec nous. On est déjà 306 désormais à 2h du matin. Alors que du coup, je regardais un petit peu le compte à rebours. On est dans la dernière minute avant le lancement des hostilités. Alors, le lancement des hostilités, on sait ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'il est 2h, Roger Goodell va arriver. Non, justement, on va y avoir les petites promos pour nous annoncer quand Roger Goodell arrive. Et finalement, Roger Goodell va annoncer officiellement que ça démarre. Donc voilà, on attend encore un petit peu de voir ça. Donc voilà, je ne vous oublie pas sur le chat. Je vois que vous êtes là, mais du coup, j'attends surtout que Victor se connecte pour que je puisse avoir un petit peu les coups des franges sur d'autres petites choses à surveiller. Et je compte, bien entendu, sur la bienveillance de tous pour éviter de spolier au maximum les choix qui vont être faits et d'attendre au moins qu'on ait révélé ces choix-là à l'antenne. Ce sera peut-être plus agréable pour ceux qui veulent avoir la surprise ou tout simplement avoir nos réactions en live sur ce qui va être annoncé, voilà, plutôt que de savoir à l'avance quels choix ont été faits. Donc voilà, essayez le plus possible d'être sage à ce niveau-là. Je sais que des fois on trépigne d'impatience à l'idée de dire vous rendez compte, ils ont sélectionné ce joueur-là. Mais voilà, ce sera plutôt pas mal à ce niveau-là. Messieurs, quelques petites questions également que je vais vous poser. On va dire un petit trivia d'entrée, un petit hot take pour démarrer ce premier tour de la draft avec quelques questions brûlantes, on va dire, pour démarrer cette draft 2022. La première question que j'ai envie de vous poser, messieurs, on va se lancer un petit peu, on va se mouiller un peu. Combien de quarterbacks au premier tour ce soir ?
Wow, moi je dirais 3.
Victor ?
Moi, je dirais 2.
Ah, je dirais 3 aussi. Hein. Ça pue l'équipe qui remonte en fin de premier tour pour aller chercher un joueur en 32e voilà. Et pour s'assurer une année optionnelle. Donc, j'irais peut-être plus sur 3. Deux positions glamour cette année, receveur ou edge rusher. Quel contingent est le plus représenté dans ce premier tour ?
Pour moi, dans le top 10, pass rusher. Après, sur les 32 choix, peut-être receveur. Mais top 10, c'est pass rusher, il y en aura 3 ou 4 minimum. Allez, 4.
Mais sur l'ensemble du premier tour, tu vas plutôt sur receveur.
Ouais, je pense qu'il y en a quand même bien au moins 5 qui vont partir. Alors, et pass rusher aussi 5. Alors, allez, c'est dur à dire.
C'est juste au feeling, encore une fois. Parce que je précise, après, voilà, il y aura la moque des uns et des autres. On s'est prêté un petit peu au jeu pour comparer un peu nos choix. Juste pour le fun, mais voilà, là c'est peut-être juste pour avoir votre ressenti sur différentes questions un petit peu brûlantes de ce premier tour. Victor, receveur ou edge rusher, qu'est-ce qui sort le plus selon toi ?
Edge rusher, je pense. Même si c'est vrai qu'il y aura forcément à un moment une course vers les receveurs parce que, mine de rien, maintenant que le marché est tel qu'un receveur 1, ça coûte 20 millions de dollars par saison. T'as plutôt envie de trouver la solution avec la draft plutôt qu'avec le marché des agents libres. Malgré tout, je pense qu'il y a trop de talent dans les edges pour voir cette position descendre. Et ouais, je dirais, à mon avis, on aura 6 ou 7 des edges.
Combien de trades à peu près ce soir ? En plus de ceux qui ont déjà eu lieu, bien sûr.
Ouais, il y en a tellement déjà.
Au moins 3.
Ça me paraît pas mal. Ouais.
2.
Ouais, 2-3. Je vous rejoins globalement. Pareil, comme pour les QB, je pense que 3, ça me paraît pas déraisonnable, surtout en fin de premier tour. Quelle université sera la plus représentée ? Je pense qu'on va avoir à peu près le même choix.
Georgia.
Ah ouais.
Ouais, Georgia également. Alors, une petite question subsidiaire qui n'est pas directement liée au premier tour, mais qui peut en tout cas être concerné dans cette draft 2022. Est-ce que c'est un running back ou un tight end qui sort en premier ?
Bon, un running back, je pense.
Un running back.
Et il dit ça la mort dans l'âme.
Ouais.
Que je sens que mes amis des Bills vont faire la connerie. Je le sens là en 25.
C'était annoncé dans la mock de Jeremiah, en l'occurrence la sélection de Brice Hall À Buffalo, alors attention, ce n'est pas parole d'évangile, mais on l'a souvent évoqué. C'est vrai que voilà, Jeremiah Maia, il a quand même l'oreille de certains GM ou en tout cas certains scouts NFL. Donc voilà, globalement, il dit aussi ce qu'il évoque dans ses mocks, c'est pas uniquement du ressenti, c'est aussi du retour d'écho, on va dire.
Après, il faut quand même voir que depuis 2014, il y a toujours eu un running back choisi au premier tour, toujours. Il faut remonter à 2014 pour qu'on n'ait pas.
Ouais.
Donc, ouais, moi, j'y crois pas. Franchement, je pense pas qu'il y aura un running back cette année. Mais depuis, voilà, depuis l'année 2015, il y en a toujours eu au moins un.
Très bien. Et alors, autre question que j'ai pas posée sur les quarterbacks, mais Victor y a un petit peu répondu tout à l'heure par le biais des Panthers, enfin, par le biais du live Twitch, pardon. Pas de quarterback dans le top 10, c'est une forte probabilité.
Ça dépendra de Caroline.
Ah, moi j'aurais dit des Saints, mais
oui, après ils peuvent monter aussi, oui, c'est pas impossible, mais moi j'imagine plus Carolina pour eux.
Ouais, tu peux, bien sûr. Moi je pense que Carolina, non, ils vont pas y aller sur un quarterback. Par contre, il y a peut-être une équipe qui pourrait monter dans le top 10, et je pense que ça pourrait être les Saints. Peut-être c'est mon droit. Pari, quoi.
Oui, c'est une possibilité. Ça revient aussi assez souvent. De toute façon, le simple fait que les Saints aient récupéré un deuxième premier tour avec une équipe qui est assez complète, ça interroge malgré tout sur leur marge de manœuvre, en tout cas ce qu'ils ont envie de faire, leur arrière-pensée par rapport à ce trade. Donc forcément, ça laisse place à différents, j'allais dire fantasmes, mais en tout cas, oui, différents petits scénarios sur ce qui peut être évoqué, ce qui peut être, en tout cas, comment dire, songer du côté de New Orleans, c'est pourquoi pas la possibilité d'un quarterback, même si on rappelle qu'ils ont re-signé Jameis Winston et qu'ils ont signé en backup pour cette saison Andy Dalton. C'est pas forcément l'avenir à long terme, on en s'entend bien là-dessus.
Et c'est surtout de l'avoir fait bien avant la draft, pardon Victor, parce que moi c'est surtout ça, parce qu'à la limite, tu vois, si c'était pour avoir deux premiers tours, prendre deux bons joueurs, bah, tu peux toujours le faire le sort de la draft. Mais l'avoir fait, c'était quoi, il y a un mois à peu près, ce trade? Donc si tu le fais vraiment avant, c'est pourquoi? C'est pour avoir le temps d'appeler tes confrères général manager, savoir ce qui va te coûter de monter au choix 8, au choix 9, au choix 7, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ce choix-là, ce trade avec les Eagles, il y a déjà un mois, pour avoir le temps de passer tous les coups de fil. C'est ce qui me fait penser qu'il pourrait y aller pour un quarterback.
Victor, tu voulais dire?
Il y a une petite question dans le chat de F4BR1C34. Donc on ne sait pas si c'est un mot de passe ou un nom, mais quoi qu'il en soit, est-ce que vous croyez un trade ce soir de 1 Baker Mayfield et 2 Deebo Samuel?
Je te laisse répondre.
Oui, j'y crois. Ouais, je pense qu'on pourrait même rajouter un James Bradbury. Imaginons les Giants, ils prennent Sauce Gardner et puis dans la foulée, ils traitent Bradbury. Oui, je pense que là, quand tu posais la question tout à l'heure, Grégory, sur les trades, c'était voilà, pour que les équipes montent ou descendent au premier tour. Mais il y aura aussi, je pense, des échanges concernant des joueurs. Alors, je ne vais pas vous dire oui, les trois. Bon, de toute façon, j'en sais rien, mais oui, c'est fort possible qu'il y en ait au moins un des trois qu'on vient de citer. Ouais.
Tout à fait. J'en profite juste avant de donner ma réponse pour préciser quand Jean Goodell va s'exprimer sur le podium pour lancer officiellement les hostilités de cette draft 2022. Donc là, on va enfin rentrer dans le vif du sujet d'ici quelques petites secondes avec le petit tableau que vous voyez à la droite de l'écran qui va être mis à jour donc au cours de cette nuit par Camille Saraben. Du coup, par rapport au trade, oui, alors c'est une possibilité. Pour le premier tour, oui, le principal nom, c'est Deebo Samuel. Moi, ce qui me perturbe un petit peu avec Deebo Samuel, c'est surtout que les choix des Jets sont quand même extrêmement hauts, puisqu'on parle principalement des Jets dans la perspective de récupérer Deebo Samuel. Et avec tout le talent et tout l'amour en plus que j'ai pour Deebo Samuel, j'allais dire bazardé, mais en tout cas, oui, se séparer d'un quatrième ou d'un dixième choix pour récupérer un receveur qui, malgré tout, continue, je trouve, de représenter une fragilité à long terme. Enfin, moi, c'est toujours ce qui m'a fait peur avec Deebo Samuel, c'est vraiment sa durabilité, on va dire. Et voilà, ça me paraîtrait peut-être un peu cher payé. Début de deuxième tour pour les Jets, peut-être, mais sur un premier, j'en suis pas persuadé. Après, on ne sait pas, il y a peut-être d'autres équipes intéressées. Hein. Peut-être que les Packers peuvent tenter Deebo Samuel, par exemple.
Oh oui, ça serait une bonne idée, ouais, effectivement.
Mais oui, pour d'autres, je sais pas trop, ça dépendra. Je vais paraphraser Victor, mais oui, ça dépendra de ce que font les Panthers un petit peu plus tard.
Et pour le coup, Kansas City peut aussi être un partenaire de trade. Hein.
Aussi. Oui, ouais, exactement. Ouais.
Ça peut faire partie des équipes. Moi, je suis assez d'accord. Un 10, ça me paraît cher. Après, ils peuvent très bien envoyer un 10, mais récupérer un deuxième tour. On sait comment ça marche. Enfin, c'est toute une question de négociation. Mais je pense que Deebo Samuel reste quand même le plus probable des deux, même si je ne suis pas convaincu. Baker Mayfield, je pense que ça sera plus des tractations d'après-draft que vraiment un échange là, le soir de la draft, j'y crois moins.
Oui, clairement, je pense que ça peut être un scénario type Josh Rosen qui est envoyé à Miami dans le deuxième jour ou ce genre de possibilités. Jean-Mi, tu allais rajouter ?
Ouais, il y a du lourd sur le podium là. Là, il y a Ice Cube qui vient de monter là. Today was a good day, il est là.
Ouais, on a quelques joueurs des Raiders hein, notamment qui vont.
Je ne sais pas qui est ce monsieur.
Déjà, il y a le meilleur quarterback de NFL puisqu'il y a Derek Carr, il y a Darren Waller à ses côtés et puis voilà, il y a le maître Ice Cube.
Je sais jamais s'il troll ou pas. Tu sais qui c'est, Victor, quand même, moi, sûrement.
Ice Cube ?
Oui. Ah, today was a good day.
Absolument pas.
C'est vrai ?
Bon, merde. Je ne sais absolument pas qui c'est.
Avant de te coucher tout à l'heure, tu vas sur YouTube, tu tapes Ice Cube, today was a good day, et voilà, t'as compris.
Bah, non, ça va t'apaiser en plus, il y a bien dormir.
Moi, j'écoute du Jacques Brel, messieurs, j'écoute pas du Ice Cube.
Ouais, c'est bien aussi, c'est bien aussi.
Ben, tout à fait. Donc Derek Carr qui est sur le podium notamment, je crois avoir aperçu Darren Waller, voilà, il y a quelques joueurs notamment des Raiders qui chauffent un petit peu la foule de Las Vegas, première, hein, si je ne me trompe pas, donc pour Vegas, dans l'accueil d'une draft NFL. Donc on essaye de mettre les petits plats dans les grands et on va donc pouvoir enfin lancer cette draft 2022 sous la coupe de Roger Goodell, 10 minutes donc par sélection et par équipe, ce qui peut nous amener grosso modo, messieurs, sur 6 heures de couverture draft. Mais normalement, les 10 minutes ne sont pas utilisées systématiquement. Donc voilà.
En moyenne, c'est 5h30, on va dire, mais...
peu moins quand même. On espère ne pas être là jusqu'à 7h30, même si on prendra beaucoup de plaisir à échanger ensemble et avec vous. Mais bon. Si à 6h, 6h30, ça peut être géré, cette histoire, c'est très très bien aussi. Hein, surtout qu'il y a une deuxième nuit à gérer dans la foulée, on la rappelle. Donc voilà, en tout cas, c'est lancé. Jean-Michel, je ne sais pas combien t'en es, moi j'en suis à 9-17 à peu près pour la sélection des Jags.
Ouais, 9-11, 9-10.
Voilà, donc on est à peu près dans les mêmes eaux, donc on pourra un petit peu suivre cette annonce. En même temps, donc les impératifs des Jags, j'ai posé la question globalement. Jean-Mi, est-ce qu'il y a quand même d'autres priorités, hormis un edge ou un tackle? Il n'y a pas d'autres directions vraiment que tu vois clairement pour ces Jaguars?
Ah non. Demain, on parlera d'autres besoins, évidemment.
Un receveur, il paraît qu'il y a une pelletée de receveurs annoncés dans le top 10.
Non, demain, on pourra parler receveur, on pourra parler safety, on pourra parler éventuellement linebacker ou d'autres positions. Mais non, aujourd'hui, c'est forcément soit un pass rusher, soit un tackle offensif, parce que ce sont vraiment les positions premium, en plus de quarterback et de cornerback aussi. Mais bon, a priori, cornerback, ils en ont drafté un l'année dernière, ils ont aussi Shaquille Griffin, enfin, ils ont ce qu'il faut. Donc, non, là, ce serait vraiment la méga surprise s'ils prenaient ni un offensive tackle, ni un pass rusher. Ouais. Non, là, je ne vois pas.
Tout à fait. Victor, j'insiste.
On n'a jamais eu dans l'histoire. Hein.
De quoi? De quarterback drafté
de cornerback numéro 1.
Non, je ne crois pas, non. Ouais.
Ça ne me dit rien. Ouais. Ça me dit rien. Victor, je rappelle, hein, si tu as la moindre question sur le chat, t'hésites pas. Toi, tu vois d'autres besoins particulièrement ou tu rejoins globalement Jean-Mi sur ce qu'il vient d'être dit?
Non, je rejoins. Après, encore une fois, moi, je pense que la prolongation de Robinson rend toujours plus probable la sélection d'un edge, mais je tombe pas de ma chaise si Jacksonville pourrait dire le meilleur joueur de mon board, c'est un joueur de ligne offensive. J'y vais parce que malgré tout, ça reste un besoin. Protéger Trevor Lawrence, ça reste une priorité. Enfin, ça me choque pas. Donc là, je suis comme Jean-Mi. En dehors de ces deux postes-là, ouais, là, ça serait une surprise.
Alors, on va y venir, messieurs, justement, sur la mock que les uns et les autres ont fait. Hein, je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver celle de Jean-Michel sur le site de TDA, hein, puisqu'on a contribué ensemble à la dernière mock draft à 3 tours sur le site où Jean-Michel a donné les choix du premier et moi les choix du deuxième et du troisième. Donc, on a déjà ces 32 choix, si vous voulez d'ores et déjà les consulter avec les explications qui vont avec. Du coup, on a les choix de Jean-Michel, les choix de Victor, les miens, mais on a également ceux de Sébastien Poloméni et d'Alexandre Locke, qui contribuent régulièrement aux couvertures draft, aux fiches, aux mocks, etc., etc. Et du coup, sur ces 5 choix, messieurs, on n'a pas forcément une unanimité. Il y a 5 edge rushers, de toute façon, dans les choix réalisés. Mais on a 3 choix en faveur d'Aidan Hutchinson et 2 pour Travon Walker. C'est mon cas, en l'occurrence, puisque j'ai décidé de faire all-in. On est à Vegas, messieurs. Je tente Travon Walker en numéro 1 parce que, manifestement, c'est une tendance qui commence à se dessiner. Et comme on le disait tout à l'heure, on est peut-être vraiment dans le côté fantasme du côté de Jacksonville où je pense qu'on va plus partir sur un projet à long terme, surtout pour la première année du head coach, que pour un projet vraiment, vraiment, on va dire, établi, mais peut-être avec un plafond un peu moindre, de ce qu'on en juge, en tout cas, par rapport aux réactions des observateurs. Voilà. Bah Hutchinson pour vous deux. Hein. Je ne l'ai pas dit, pardon, mais du coup, Walker pour moi, Hutchinson pour Jean-Mi et pour Victor. Et on a Walker pour Alexandre et Hutchinson pour Sébastien également. Je crois que le consensus des auditeurs sur Twitter se portait sur Hutchinson également.
Oui, bah écoute, dans le chat, ça a l'air aussi de partir sur Hutchinson. Je pense que bon, il va y avoir.
Si c'est un tackle, on va parler polonais. Hein.
Non, mais on voilà, je pense que des gens se sont préparés psychologiquement à Hutchinson ou Walker. Ils sont de moins en moins préparés au raid parce qu'il faut rappeler que avant la prolongation de Robinson, ça parlait beaucoup d'Evan Neal aussi. Hein.
Oui.
Ça parlait énormément, donc. Là, je vois Chander 12 qui dit « Je sens Walker, cette hype de ouf ». Eh bien oui, on va voir si Jacksonville choisit avec sa tête ou choisit avec la hype. Hein. Écoute, ça va être l'enjeu de ce premier choix.
Voilà, en tout cas, 4-40 désormais. Ah, le choix vient d'être réalisé, donc il n'y aura pas de trade. Ah. C'est déjà une chose à savoir. Les Jacksonville Jaguars ont réalisé leur choix et les Detroit Lions. Merci Camille pour la petite alerte sonore. Les Detroit Lions vont donc être sur l'horloge pour savoir éventuellement ce qu'ils font de ce deuxième choix de draft. Donc ça va être annoncé dans quelques petites secondes, savoir si on part plutôt sur du Hutchinson ou du Walker. On le rappelle, hein, si vous n'avez pas forcément une idée très précise, on va dire, de cette classe de edge rusher, on a donc Hutchinson et Walker. Avec éventuellement Thibodeau, mais Thibodeau qui a beaucoup perdu le defensive end d'Oregon, qui a visiblement perdu beaucoup de crédit, notamment au niveau de ses interviews, avec visiblement une implication dans l'aspect football qui a beaucoup été pointé du doigt par pas mal de franchises. Donc c'est ce qui fait baisser sa cote. Et puis derrière, on retrouve Jermaine Johnson, notamment edge rusher de Florida State, et George Karlaftis de Purdue. Ces 5 joueurs-là qui sont quand même fortement pressentis pour être sélectionnés dès ce jeudi. Il y a des réactions spéciales sur le chat, Victor, sans spoil, bien entendu.
Non, là, pour le coup, tout le monde très discipliné à bien dire pas de spoil, on essaye d'éviter ça. Donc, les gens sont sur les starting blocks. Ils ont discuté, il y a eu du Hutchinson, il y a eu du Walker, et là, tout le monde est en mode attention, let's go, ça commence. Je pense que tout le monde est impatient que ça démarre. Et voilà, vraiment, on essaye d'éviter les spoils et ça va être une belle soirée. Il y en a certains qui n'ont pas de problème, hein, puisque je vois Ségrayo qui dit « Moi, aucun stress pour les choix de draft. Il n'y en a pas avant 102. » Alors, j'ai plus en tête…
Oui, Miami, j'imagine. Ouais. Miami, ouais.
Oui, voilà. Donc voilà, pas de divulgachage exactement. Soyons français, parce que nous sommes en France, messieurs.
Oui, bon, on le répète encore une fois, mais c'est vrai qu'il y a 8 équipes, il me semble, forcément qui n'ont pas de choix du premier tour. Le choix qui va être annoncé tout de suite par Roger Goodell. Je vais mettre le petit son pour écouter tout ça. Donc avec le premier choix, les Jacksonville Jaguars sélectionnent Travon Walker, defensive end de Georgia. Et ben voilà, c'était la grosse hype, messieurs, savoir quelle direction allait prendre les Jaguars. On a cédé au fantasme du côté de Jacksonville. Quel est ton avis Jean-Michel, sans cette arrivée de Trayvon Walker, pas très très loin de la liste trouvée, hein, parce qu'entre entre Athènes et Jacksonville, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Quel est ton ressenti à chaud sur cette sélection de Trayvon Walker?
Ben moi, je trouve que c'est un très bon choix. Écoute, je trouve qu'il y a beaucoup de hate sur Trayvon Walker, mais en fait, moi, je vois pas qu'est-ce qui lui manque. Hein. Le gars, voilà, il a été bon à l'université, il a été champion, il a respecté ce que lui demandait son entraîneur, il était capable d'être un two-gap player, c'est-à-dire s'occuper vraiment de deux assignements sans souci. Il défend le run, il sait mettre à la pression, il a des qualités athlétiques, il a l'intelligence de jeu. Moi, je trouve qu'il a vraiment tout pour vraiment réussir à NFL parce que de toute façon, les décideurs, ils ne regardent pas qui a été le plus productif à l'université. Ils n'en ont rien à faire de ça. Ça dépend tellement de ton opposition, ça dépend tellement de ton système. Tu vois juste les qualités intrinsèques du bonhomme et il en a énormément. Donc, tu le vois et tu te dis oui, dans mon système, dans mon équipe, ça peut faire quelque chose de bon. Parce que, en plus, tu vois, moi, j'aurais bien aimé Dan Hutchinson, mais quelque part, Trayvon Walker, c'est beaucoup plus complémentaire avec Josh Allen, par exemple. Parce que, a priori, alors, je ne sais pas s'ils vont rester sur une 3-4 ou une 43, mais bon, tu as quand même un Josh Allen qui est beaucoup plus fluide, qui va déborder de l'extérieur. Alors qu'un Trayvon Walker, c'est quelqu'un qui, certes, c'est un D-line extérieur, mais qui peut beaucoup plus glisser vers l'intérieur. Et donc, du coup, voilà, tu as ces deux gars qui sont très bons sur le premier rideau et qui en plus sont complémentaires. Donc moi, je trouve que c'est un très bon choix. Hutchinson aurait été un très bon choix, mais je trouve ça très bien.
Juste, vous l'avez entendu avec la petite annonce sonore, la petite alerte sonore, le choix des Lions, c'est déjà fait. Hein. Ça, c'est intéressant à voir.
Bah, ils ont fait vite, là. Parce que,
oui,
du coup,
peut-être que,
on
peut-être
s'en doute,
que le
quoi.
Choix des Jaguars les a amenés à ne pas forcément prendre autant de temps que ça pour leur sélection. Victor, ton avis sur Trayvon Walker? Je sais que tu as un peu plus mesuré, en l'occurrence. Est-ce que pour toi, ça fit à Jacksonville, malgré ce statut numéro 1 qui est peut-être un peu surévalué?
Absolument pas, c'est un choix catastrophique. C'est catastrophique, c'est un mauvais choix fait par une mauvaise franchise. Je suis triste pour les fans. Je crois qu'il y a Malaki qui est déjà saoulé, le pauvre. Là, il n'en pouvait plus. Écoute, c'est formidable. Maintenant, on va plus faire de saison, parce qu'apparemment, tout le monde s'en fout de la production de l'université. On va juste faire un combine. Et après, on va sélectionner les mecs selon leur performance athlétique, puisqu'apparemment, selon Jean-Mi, on s'en fout s'ils ont été productifs en université. Alors, le mec, alors oui, c'est vrai qu'on lui a demandé juste de défendre un gap en université. Peut-être qu'il a été mal utilisé. Peut-être aussi qu'il ne sait pas faire de pass rush. C'est aussi tout à fait possible. Et ce n'est pas parce que tu es athlétique que tu es un bon pass rusher. Donc, alors, aujourd'hui, on n'en sait rien. Donc, OK, peut-être que finalement, il finira par être productif et tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, passer sur un joueur comme Hutchinson, je trouve ça catastrophique. Catastrophique, je le dis tout de suite. Et par contre, pour moi, ça rend la sélection de Détroit facile. Et je le dis tout de suite, je fais un petit pont entre 1 et 2. Mais on a Hutchinson qui est né dans le Michigan.
Attends, ça annonce tout de suite, on va voir la confirmation quand même.
Voilà.
On l'annonce tout de suite avec le deuxième saut, les Lions sélectionnent. Et voilà, c'est officialisé. Je te laisse enchaîner, Victor, mais Dan Hutchinson est bel et bien drafté par les Lions. Je te laisse finir ton propos et je rebondirai un petit peu là-dessus en essayant, on va dire, d'être
faire
un peu
le
à mi-chemin
milieu.
Entre les deux. Ouais, tout à fait. Ouais.
Bah, écoute, Hutchinson a été très productif en université, mais apparemment, on s'en fout. Mais il faut dire quand même. Écoute, c'est le meilleur pass rusher de cette QV. C'est un joueur qui a été un peu ralenti, on va dire, par les blessures dans sa progression, ce qui fait que l'année dernière, il n'avait peut-être pas le crédit qu'il a cette année, même s'il aurait pu être un premier tour l'année dernière. Et puis voilà, moi, j'aime bien ce côté. Le gamin, il est né dans le Michigan, il a fait ses études dans le Michigan. Bah, c'est un des joueurs qui va être heureux d'être à Détroit. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 1 million de joueurs qui seraient heureux d'être à Détroit. pardon. Et là, je vois dans le chat, tout le monde est assez d'accord. Hein. C'est un choix qui fait sens pour les Lions. J'ai envie de dire que eux, c'est une divine surprise de voir les Jaguars prendre Trayvon Walker.
En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que Victor n'est pas fatigué parce qu'il nous a quand même sorti en 5 minutes le lance-flamme sur les Jaguars et les Lions. Donc comme ça, c'est formidable.
Pourquoi Lions? J'ai dit que c'était une bonne chose.
T'as dit c'est un des rares joueurs à être content d'aller jouer aux Lions.
Moi, j'y peux rien. Si Détroit et Cleveland, ouais. C'est pas des villes qui font rêver. Hein.
Non, mais juste pour recontextualiser, parce que je pense pas que le propos de Jean-Michel était de dire que forcément, on s'en fout vraiment. Je pense que oui, il y a des projets athlétiques qui amènent à reconsidérer peut-être la production brute d'un joueur par rapport à un autre. Et encore une fois, c'est vrai que Trayvon Walker, moi, je le redis, parce qu'encore une fois, j'ai fait sa fiche draft justement sur le site. Encore une fois, moi, je pense que c'est un joueur qui n'a pas été utilisé sur un poste optimal du côté de Georgia. Pour moi, c'est un defensive tackle de formation qui a cette puissance, cette agilité qui lui permet de pouvoir faire énormément de choses, d'avoir une amplitude qui lui permet notamment d'être extrêmement dangereux sur le run stop. Alors oui, c'est sûr que techniquement, c'est clairement pas parfait ce qu'il va proposer sur le pass rush, mais et ça revient à ce que disait un petit peu Jean-Michel tout à l'heure, c'est vrai qu'on est un peu dans l'incertitude sur le système défensif qui va être mis en place aux Jaguars. Je l'avais comparé à Calais Campbell sur la fiche, je persiste et signe, je pense que s'il reprend un peu de gabarit dans le système des Jaguars que je vois plus ou moins rester sur une 34, ça peut fitter. Après, voilà, c'est la principale problématique, et pour rejoindre ce que tu dis, Victor, c'est que oui, en effet, ça peut faire haut un premier choix pour un joueur qui, pour moi, va peut-être avoir au moins besoin d'une année pour s'adapter vraiment possiblement à son nouveau poste et du coup à ce fameux changement de gabarit que je mets en avant.
Je suis pas persuadé parce que ce qu'il a montré sur le terrain, je veux dire, le gars, il peut tout faire. Il a été aligné 3 techniques, 5 techniques, 7 techniques. Enfin, je veux dire, il connaît déjà tous les assignements, tous les rôles, tous les. Donc, bon, je le vois au contraire performer d'entrée. Mais non, c'est pas ça la question. C'est parce que la question à Georgia, c'était pas son rôle. Je veux dire, c'était. D'accord. Et ouais, c'était fait pour que Nakobe Dink, Corey Walker et Tindall, ils arrivent derrière et Nolan
Smith du côté. Oui, c'est vrai que ça arrive un peu partout du côté de Georgia.
Et oui, mais c'est ça le truc. Donc là, par contre, aux Jaguars, il n'y aura pas autant de monde et on va lui demander d'autres choses et il pourra le faire puisqu'il a toutes les qualités pour. Donc moi, je pense qu'il va être prêt dès le premier jour. Hein.
Ça me rappelle un peu la hype Jadeveon Clowney en termes de monstre physique qui va tout remporter sur son passage. Et puis finalement, quelques années après, on se dit, ah, finalement, non. C'est mieux pour défendre la course que la passe.
C'est pas un monstre physique, c'est pas la question du monstre physique, c'est ce qu'il a montré sur le terrain à Georgia.
Après, c'est pas grand-chose.
Mais c'est pas non, mais toi, tu regardes les stats, Victor. Mais si on regarde les stats, et Hutchinson, c'était pas le meilleur sacker à l'université l'année dernière. Il y en a d'autres qui sont juste meilleurs.
Messieurs, si vous me permettez.
on est en fight, là.
L'année dernière, j'ai ramené les gants. J'ai oublié de les prendre à cette fois-ci. Ne m'obligez pas à aller les chercher.
Mais on est chaud là.
Vous parliez de Jadeveon Clowney. Il y a quand même une chose importante à souligner, parce que cette sélection des Jaguars, en effet, elle fera couler beaucoup d'encre. Le choix des Texans, en tout cas, en numéro 3, est fait également. C'est validé. Houston n'a pas tradé son choix. Là aussi, c'était dans les rumeurs. Ce sera peut-être également avec leur 13e sélection. Du coup, c'est quoi la direction pour Houston concrètement? Parce que du coup, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ceux qui avaient mis Hutchinson du côté de Détroit, donc du coup, c'était moi et Alex, mais du coup, c'était conditionné au fameux choix de Trayvon Walker qu'on avait annoncé en amont. Du côté de Houston, on a quand même 4 personnes qui vont vers Evan Neal, et du coup, moi qui choisis plutôt Ikem et Kwonu. Mais du coup, on est plutôt sur de la ligne offensive pour protéger éventuellement Davis Mills, Jean-Mi.
Oui, c'est ça le projet, protéger Davis Mills. Et puis, je trouve que ça apporterait aussi beaucoup de flexibilité, parce que c'est ça aussi la draft, c'est penser à l'avenir. C'est-à-dire que si tu prends Evan Neal ou même Ekwonu, par exemple, ça peut te permettre d'avoir 2 très bons tackles pour Davis Mills cette année, et ça peut te permettre d'éventuellement faire un échange en 2023 de Larry Mittensil. Tu économises son gros contrat, tu as son remplaçant dans l'équipe, et puis c'est tout bonus.
Ça va être annoncé. Victor, du coup? Bah toi, tu as dit Evan Neal, du coup, alors attends, je vais l'annoncer tout de suite. Avec le 3e choix, les Houston Texans sélectionnent. Derek Stingley, cornerback d'LSU. Alors là, ils ont décidé de nous chauffer Victor dès le début de l'émission. L'AFC Sud est avec Victor Roulier, sachez-le. Du coup, j'allais te donner la parole, Victor. Derek Stingley à Houston, qu'est-ce que tu en penses?
Écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Et ben, je vais peut-être te surprendre parce que tu attends à ce que je saute sur le wagon, mais
pas du tout. C'est vrai qu'il a beaucoup produit à l'université, beaucoup.
Pour le coup, je pense que Houston, ils ont tellement de besoins qu'il faut prendre le joueur qui est le plus haut sur leur board. Mm-hmm. Si c'est Stingley, soit. Tant que vous êtes cohérent avec votre stratégie, j'ai envie de dire soit. Il n'y a pas de problème pour moi. Malgré tout, c'est vrai que je serais parti sur un choix plus safe. Je pense que protéger le quarterback était une bonne idée. C'est ce que j'aurais fait. Alors, ma préférence personnelle, c'est Ekwonu. J'avais prévu Neal, mais l'un ou l'autre. Stingley, c'est vraiment un pari absolu parce qu'en effet, sa dernière saison où il produit, c'est 2019. Après, souvent, on dit qu'il a été constamment blessé. La réalité, c'est qu'il a eu surtout une énorme blessure qui a été plutôt mal soignée au niveau du disque franc. On sait que le disque franc, c'est très compliqué à soigner pour le coup. Et très long aussi à soigner. Donc voilà, après, il semble être revenu au maximum de ses capacités physiques. Il a fait, si j'ai bien compris, des prodés assez, assez impressionnants. Donc voilà, écoute, si vraiment c'est le premier joueur sur leur board, bah, pourquoi pas. J'essaye de voir un peu ce que nous disent le chat, on a du quel plaisir, on a hop, une autre carrière de détruite. Bon, je ne suis pas sûr que tu aies une carrière détruite à Houston. Des gens s'étonnent, comme Jérémy 2669, qui soit pris avant Sauce Gardner. Des gens sont surpris. Hein. Des gens sont surpris. Mais c'est aussi ça qui est beau dans un draft.
En tout cas, messieurs, on s'attendait à une draft pleine de surprises d'entrée. Bah, on n'est pas vraiment déçus, parce que autant Trevon Walker et Derek Stingley, en effet, c'était des joueurs sur les dernières mocks d'experts, on va dire, analystes américains qui étaient plus ou moins annoncés dans ces eaux-là. Mais c'est vrai qu'après, bon, il y a toujours les écrans de fumée où on se dit ce que ça va être fait concrètement. Là, en l'occurrence, ça a été le cas. Derek Stingley, je vais te laisser donner ton avis, Jean-Mi, mais c'est vrai que pour le coup, on n'a jamais vraiment remis le talent en question, surtout sur un poste à besoin du côté de Houston. Maintenant, la question, c'est pareil, c'est un peu la même logique que Walker. Est-ce qu'on va être capable d'en tirer le plein bénéfice tout de suite ?
Pourquoi pas, écoute, puisque bon, comme l'a dit Victor, le souci, c'était vraiment la santé. On l'a vu à son prodé au début du mois d'avril et apparemment, il est en très bonne santé. Je veux dire, il fait des tests athlétiques incroyables. Donc, le gars, il est vraiment prêt à être performant. Et au niveau de sa qualité de joueur de football, là-dessus, personne n'a vraiment de doute. Ce qu'il nous a montré, alors surtout en 2019, mais même ensuite, par bribes, on voyait très bien que c'était un joueur très intelligent. Donc oui, moi, je pense que ça peut fonctionner. C'est surprenant tout de même, mais pourquoi pas, pourquoi pas.
Très bien. Les Jets n'ont pas fait encore de sélection. Ils sont à 3:35 à peu près. Alors, où on se parle, ils ont encore 3 minutes 35 pour faire leur choix. Peut-être que ça parle trade. Hein. Attention, parce qu'on va peut-être y venir encore une fois. On sait que les trois premiers choix en termes de compensation pour réussir à les obtenir, c'est quand même très, très cher payé. On va commencer à arriver quand même dans des pics un peu plus abordables, surtout qu'on a beaucoup d'équipes, on le répète, avec deux choix du premier tour. Donc, il y a malgré tout des leviers pour pouvoir éventuellement changer cet état de fait. Au moment où je le dis, le choix a été réalisé par les Jets. Les choix qui ont été faits du côté des chroniqueurs, pardon, de Touchdown Actu, on a donc trois choix qui vont vers Kevin Thibodeau, à savoir Jean-Michel, Alexandre et moi-même, et les deux autres joueurs. Alors, on a Charles Cross, sélectionné par Victor. Et du coup, Sébastien, qui n'est plus dans la course, parce qu'en l'occurrence, il avait sélectionné Trevon Walker en s'appuyant sur ses sélections précédentes. Donc voilà, Thibodeau, est-ce qu'on y croit vraiment ? Robert Saleh a souvent construit sur la ligne défensive du côté de San Francisco. Il apparaît comme peut-être le meilleur lineman défensif slash pass rusher du plateau à l'heure où on se parle. Mais est-ce que le jour en vaut la chandelle, selon vous, avant que cette sélection ne soit annoncée ?
Selon Victor, moi, oui, mais pardon. Vas-y, Victor. Ouais.
Non, mais juste pour le petit mot, parce que j'ai vu passer dans le chat, je vais retrouver.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
La personne dit ça, mais qui disait Stingley, c'est un risque, mais ce n'est pas un reach. J'aimais bien la formule parce que c'est vrai que c'était assez intéressant. Ouais. Et écoute, moi, pour moi, les deux se justifient pour les Jets. Tu peux dire, je veux protéger Zach Wilson, je prends le meilleur tackle disponible. Après, qui est le meilleur tackle disponible sur ton board? Ça, c'est une autre question. Et tu peux dire, Thibodeau est un tel talent que j'ai envie de construire avec lui. Comme tu as dit, Saleh aime construire par les lignes. Donc là, pour le coup, je n'ai pas l'impression qu'il y a un mauvais choix. J'ai l'impression que les deux se défendent.
Jean-Michel?
Oui, oui. Enfin, après, moi, je trouve qu'ils ont déjà beaucoup investi sur la ligne offensive. Et puis, finalement, leur seul point faible sur la ligne offensive, c'est vraiment au poste de centre, je trouve. Même à droite, il y a Georges Fante. Et puis, si tu prends Charles Cross, tu fais quoi? Tu mets Andrew Thomas à droite, du coup. Enfin, je ne dis pas que ça serait un problème. Ça serait aussi un bon choix. Mais je pense qu'il leur faut un pass rusher. Hein, de toute façon, il leur faut vraiment un playmaker en défense. Ils ne l'ont pas. Donc, il leur faut un pass rusher. Et puisqu'on est sur la soirée des surprises, ça commence fort. Alors, pourquoi pas Jermaine Johnson, du coup, hein?
Parce que
Kevon Thibodeau, oui, moi, je trouve que c'est un super joueur. Et tout le monde sait que c'est un super joueur. Après, bon, ben voilà, récemment. Il y a eu des histoires comme quoi il serait tellement égocentrique que ça ne le ferait pas. Mais bon, après, être égocentrique, finalement, si tu es à New York, ça peut peut-être t'aider à réussir aussi. Donc, moi, je dirais
Thibodeau. Sanders, ça fait une grande carrière. Hein. On peut réussir avec un égo surdimensionné.
Tout à fait, ouais. Et Deion Sanders a été sélectionné top 5. Alors, je ne sais pas s'il était aussi... s'il laissait autant transpirer cet état de fait en interview que manifestement, Kevon Thibodeau a pu le faire. Mais voilà, on va voir la sélection en tout cas des Jets dans quelques secondes. Il semble que Roger Goodell est en train d'arriver sur le podium à l'heure où on se parle. Donc voilà, mais c'est sûr qu'en tout cas, il y a cette interrogation sur plutôt ligne offensive, plutôt ligne défensive. Là, le fait qu'il n'y ait pas eu de tackle sélectionné avant, ça peut leur permettre peut-être d'aller chercher un lineman en 10. C'est annoncé. Avec le quatrième choix, les Jets sélectionnent. Sauce Gardner, cornerback de Cincinnati. Ça court sur les cornerbacks. C'est sans doute la conséquence du choix des Texans. Peut-être qu'on voulait éventuellement, pourquoi pas, aller chercher un corner avec le 10e choix. On a un petit peu agité la gâchette, si je peux prendre cette expression-là. Jean-Mi, je te vois opiner du chef. C'est un choix sexy pour les Jets, l'arrivée de Sauce Gardner.
Ben, c'est un peu surprenant, mais c'est un très, très bon choix. Voilà, Sauce Gardner, c'est vraiment un super joueur. Il a tout ce qu'il faut pour être vraiment ce qu'on appelle le shutdown corner, c'est-à-dire se mettre d'un côté du terrain. Et toutes les semaines, tous les dimanches, il va prendre le meilleur receveur adverse. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Moi, ça m'a fait sourire parce que je pense beaucoup. Ben, vous savez, il y a les comptes FR sur Twitter. Et puis, la personne, Max, qui s'occupe des Jets, toute l'année, enfin, depuis plusieurs semaines, il disait « Mais non, ça ne sera pas un cornerback, on joue en zone, on a beaucoup de defensive back, ce n'est pas important un cornerback. » Et puis ben, finalement, voilà, c'est un cornerback qu'ils prennent. Quoi. Mais je trouve que quand même c'est un très bon choix.
Oui, tout à fait. Victor, ton avis sur cette sélection de Sauce Gardner? On utilise souvent cette expression un petit peu presque avec des raisons, mais c'est sans doute sans remettre en cause le talent de Derek Stingley, le principal shutdown corner de cette classe.
Oui, tout à fait. Bah, du coup, on était parti sur ligne offensive, pass rush. Finalement, on fait un autre choix. Bon, ils ont encore un choix en 10. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je pense que voilà, Stingley a été pris. Ils se sont dit, mince, nous aussi, on a un besoin en corner. On en a peut-être deux qui sont vraiment au-dessus des autres. On n'a pas envie de les laisser passer. En plus, pour le coup, c'est vrai que corner est aujourd'hui largement devenu top 4 des positions dans la NFL d'aujourd'hui, vu comment ça évolue. Donc oui, je suis d'accord. Il y a un potentiel shutdown corner. Il est polyvalent, il est sérieux, il est playmaker, il a tout ce qu'on veut. Donc c'est un choix étonnant, mais totalement justifiable.
Ouais, en tout cas, il n'y a pas d'erreur. On est bien sur la draft NFL, c'est-à-dire que tous les ans, on est plein de certitudes. Ils vont faire ça, ça va être ça. Et puis tous les ans, il arrive la draft et puis pff, il se passe totalement l'inverse de ce qu'on avait prévu.
Quand on
et
est...
au niveau du chat, ça commence à dire que Grégory va sortir le champagne si Thibodeau descend aux Falcons. Mais je pense que tu prendrais Jermaine Johnson.
Je dirais pas non. C'est, bah, après, je pense que comme beaucoup, je suis un peu titillé par cette histoire de, de vraiment de joueurs un petit peu à caractère. Hein. Il y en a quelques-uns dans cette classe. On parle beaucoup de George Pickens, par exemple. Mais bon, si Thibodeau est un peu dans cette catégorie, dans une équipe qui est amenée à vraiment repartir de zéro, je ne sais pas si c'est l'élément si c'est l'élément majeur. Pour vraiment les remettre sur les bons rails. Après oui, le talent du bonhomme est indéniable, donc je cracherai pas dessus, mais oui, en tout cas, là, quatre premiers choix, deux edge rushers, deux cornerbacks, en tout cas, ça confirme qu'on part plus ou moins sur une draft défensive, en tout cas pour les principaux joueurs. Hein. On n'oublie pas qu'il y a une belle classe de receveurs et des linemen offensifs qui vont sortir à un moment donné. Mais oui, en tout cas, ça laisse un peu de perspective à la O-line, aux trois principaux noms qui ressortaient, et ça tombe bien puisque les Giants sont sur l'horloge à l'heure où on se parle. On rappelle qu'ils ont le cinquième et le septième choix de cette draft. Ils ont des besoins sur la O-line, hein, on ne va pas l'apprendre, hein, pour protéger enfin Daniel Jones, dont la cinquième année optionnelle n'a pas été levée d'ailleurs, et ne le sera pas par les Giants. Donc voilà, clairement, est-ce que c'est un choix d'avenir? Alors qu'il court déjà, Sauce Gardner, hein, c'est ça qui est beau. Il attend pas d'être sur le terrain, il courait déjà dans les coulisses pour aller chercher sa casquette. Bref, soit dit en passant, regarde les sélections pour les Giants, justement, nos choix préférentiels, on avait. Alors attends, du coup, on avait trois choix qui se portaient sur Ikem et Kwanu. Les choix réalisés par Alexandre, Sébastien et Jean-Mi. Et du coup, moi, j'étais parti sur Evan Neal et Victor sur Trevon Walker. Donc, ça me paraît compromis, mon petit Victor.
Ouais, là, ça me paraît compliqué. Mais pour moi, c'est presque un scénario idéal pour Giants et pour Panthers, on y viendra. Mais les Giants, en gros, ils ont Andrew Thomas. Et à peu près rien d'autre sur la ligne. Donc, la question, c'est OK, Andrew Thomas, c'est ton left tackle. Okay. Après, tu construis quoi sur le reste? Et là, pour moi, idéalement, ce serait Ekwonu, parce que je me dis, tu veux un tackle droit, et éventuellement, ça te fera un bon garde. Après, je pourrais totalement comprendre qu'il préfère Evan Neal. Mais là, vraiment, vu comment c'est tombé en 1, 2, 3, 4. Ça me paraît de plus en plus probable qu'ils prennent un offensive tackle, mais après, je dis ça depuis deux choix et ça n'arrive pas. Donc,
C'est
on
ça.
verra.
Alors que la sélection a été faite, hein, par les Giants, soit dit en passant. Jean-Mi, ta perspective pour les Giants, quelle direction on pourrait prendre en amont et en réfléchissant peut-être au septième choix, qui va intervenir très rapidement?
Pareil, comme Victor, je pense qu'il y a Mekwonu, et ça serait d'ailleurs le premier joueur offensif. Hein. 1, 2, 3, 4, c'était les
Oui,
défenseurs,
c'est
là.
ça. Tout à fait.
Et je pense, oui, qu'il y a Mekwonu, parce que tu peux le mettre tackle droit, et tu aurais deux très bons tackles. Tu peux le mettre à l'intérieur, et tu aurais un très bon guard. Donc, il y a Mekwonu. Je pense qu'il leur faut aussi un pass rusher. Mais du coup, là, il te reste Thibodeau, il te reste Jermaine Johnson. Donc, du coup, comme tu repiques dans deux choix, ben, tu peux en avoir au moins un des deux. Enfin, si
Tout à
tant est
fait.
que tu aimes les deux, parce que c'est toujours pareil, c'est pas un ou l'autre, ça dépend de ton système. Mais moi, je pense quand même qu'ils vont prendre un offensive tackle là.
Roger Goodell s'amène sur le podium pour annoncer le cinquième choix des New York Giants. Je ne sais pas si c'est lui qui va l'annoncer d'ailleurs. Je crois que
Ouais, il y a un petit jeune qui est très
c'est un
enthousiaste
gagnant du
là.
concours Make-A-Wish, si je ne dis pas de bêtises.
Ah, il est content, hein?
Ah bah écoute,
Ouais.
c'est une expérience d'une vie, hein,
Ouais.
d'annoncer ça. C'est pas parce que les Giants ne sont pas en grande forme que ça le prive de son plaisir, clairement. Mais là, oui, il y a deux doigts de démarrer une hola là.
Ah ouais, là, il va mettre un peu un goodle, là, c'est...
Mais bon, donc voilà, en tout cas, ça va être annoncé dans quelques petites secondes. Mais voilà, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, messieurs. Je pense que tackle, ça me paraît la bonne direction. Il y avait des rumeurs sur un receveur, surtout vu le possible trade de Kadarius Toney qui est évoqué. Et au point où on en est, Drake London en 5 aux Giants.
Il y a des gens qui commencent sur le chat à demander un quarterback, vu qu'on rappelle qu'ils n'ont pas levé l'option de Daniel
C'est
Jones.
ça. Alors, attention,
Ce
c'est annoncé.
serait une surprise.
Excuse-moi, Victor. Avec le cinquième choix, les New York Giants sélectionnent Kayvon Thibodeau, edge rusher
Ah, ben
d'Oregon.
voilà, d'accord. Eh ben oui. Donc,
Okay.
on
Eh
l'annonçait
ouais.
chuté dans les bas-fonds du premier tour de la draft.
Eh ben
J'exagère un
non,
peu.
ouais.
Il sera malgré tout dans le top 5 et il n'y a rien de vraiment incohérent à sa victoire.
Il n'y a rien d'incohérent, je suis suis impatient, dans le bon sens du terme, hein, de savoir comment il va être intégré exactement dans le schéma, parce que c'est très intéressant. Tu peux faire beaucoup de choses avec Thibodeau dans le schéma des Giants, je pense. Tu peux en faire un pur pass rusher, tu peux en faire un joueur plutôt justement, si tu considères que c'est Ojulari ton principal pass rusher, en faire un joueur plus complet qu'à différents alignements, etc. Pourquoi pas ? Écoute, après tout, ils ont un choix en 7. Ils savent qu'ils vont avoir un très bon tackle à prendre en 7 si jamais. Pourquoi pas ? S'ils sont amoureux du joueur, pas de problème pour moi. Et clairement, de plus en plus, ce front 7, il va commencer à faire peur.
Oui, on est d'accord. Jean-Michel, Kevin Thibodeau, un bon outside linebacker du côté de New York.
Ouais, très bon choix. De toute façon, voilà, on l'a dit, ils repiquent en 7, et là, c'est pareil, ils auront soit Ekwonu, soit Evan Neal disponible, donc pourquoi pas y aller sur Thibodeau. Ouais, très bon pass rusher, il en faut absolument un. Je veux dire, sur le premier rideau, ok, tu as Dexter Lawrence, tu as Leonard Williams, c'est très, très bon, mais dès l'extérieur, même si Ojulari est en développement, il y a un bon joueur, mais tu en mets un deuxième, et là, du coup, tu as vraiment une défense qui commence à devenir sérieuse, donc oui, moi, je trouve que c'est un très bon choix. Et puis, tu vois, on disait Thibodeau, égocentrique, à New York avec les Jets. C'est à New York, mais avec les Giants. Donc, allons-y sur ce gars. C'est vraiment un super joueur. Après, c'est vrai qu'il a l'air de se la péter un peu quand même, mais bon, pourquoi pas.
il est en mode swagger.
Ouais.
Il y a des réactions sur le chat, Victor, par rapport à cette sélection de Thibodeau. Je ne t'ai pas demandé.
Écoute, Kiki Stardust dit très content de ce choix. Oui, Will NDC dit fan Giants vont être très rapidement fans de Thibodeau. Écoute, ça a l'air de convaincre. Bon, il y en a certains qui sont déjà énervés par le joueur. Le gars est déjà insupportable. Ouais, c'est vrai que là, en tout cas, il a l'air d'avoir une haute estime de lui-même. Mais je pense que globalement, c'est un peu la même OT en 7. Donc, je pense que tout le monde est d'accord pour dire, OK, voilà, ils ont pris leur joueur, tout en cessant l'option d'avoir un très bon tackle en 7. Donc, Pas de problème, il y a une approbation du chat sur ce choix.
Très bien. Bon, en tout cas, le vainqueur de Make-A-Wish, là, il a vécu sa meilleure vie. Hein, parce que franchement, sur le podium avec Kevin Thibodeau, c'était quelque chose. On a presque l'impression que c'était lui qui était sélectionné en cinquième choix de la
draft. Ils ont fait un Oklahoma drill presque. C'était,
Mais bon, tant mieux. En tout cas, c'est des belles images d'ores et déjà, pardon, de cette draft 2022. Messieurs, je ne vais pas dire qu'on va rentrer dans le vif du sujet parce que très clairement, on avait déjà de belles hostilités au cours de ce top 5. Il y a malgré tout cette principale question du quarterback qui va se poser avec la sixième sélection des Carolina Panthers. Alors, Carolina n'a pas officiellement piqué. Alors, on se parle, hein, puisqu'il reste un peu moins de 3 minutes sur l'horloge. Je suis curieux d'avoir votre avis, messieurs, par rapport à ça. Sachant en plus que les 3 principaux tackles du plateau sont toujours disponibles, est-ce que ça change quoi que ce soit dans l'idée des Panthers ? Est-ce qu'on part plutôt sur un QB ou un tackle ? Je reprends d'ailleurs vos choix hein, au niveau des mocks. Globalement, on partait sur Kenny Pickett, que ce soit Alexandre, Victor et moi-même. Et sinon, Sébastien et Jean-Mi étaient partis sur Charles Cross. Jean-Mi, par exemple, tu restes sur ta logique Charles Cross, j'imagine, vu la situation actuelle.
Oui, exactement. Moi, je suis convaincu qu'ils vont faire comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un joueur à une position importante qui vient d'une conférence très importante, la SEC. L'année dernière, ils avaient pris le cornerback Jesse Horn. Cette année, ils vont prendre le tackle Charles Cross. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut construire. Sam Darnold, oui, ce n'est pas la solution, mais il est encore très jeune. Les quarterbacks de cette année, je pense pas qu'ils donnent beaucoup plus d'assurance que Sam Darnold. Donc, je les vois faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont faire totalement différemment. Ils vont prendre Kenny Pickett.
On va voir. En tout cas, ils n'ont pas tradé leur choix. Et c'est bien eux qui sélectionneront avec le 6e pick. Victor, tu restes sur ta logique du coup de Kenny Pickett en 6?
Écoute, moi, c'était plus là vraiment dans un terme de prévision. Mais si j'étais aux manettes, on va dire, je pense que je prendrais un offensive tackle. Ils ont un très bon tackle droit, donc ça c'est un vrai tackle gauche. Donc Cross fait sens, Neal peut faire sens, Ekwonu aussi, selon comment tu imagines. Mais bon, t'as quand même toujours cette tentation du quarterback parce que Sam Darnold, il a quand même montré que bon, ça commençait à être compliqué pour lui. On n'y croit plus beaucoup. Donc oui, c'est vraiment deux écoles et c'est un choix qui peut vraiment déterminer le futur de cette franchise. Si tu pars sur un quarterback, là, c'est all-in. Et si tu pars sur un tackle, parce qu'il faut se rappeler que je crois qu'il ne sélectionne plus avant le quatrième tour.
Oui, après. C'est ça, ouais, tout à fait.
Donc, il ne faut pas se louper sur celui-là. Je regarde un peu ce que ça dit sur le chat.
C'est ce que j'allais te demander. Je reprécise ce que j'avais dit dans une précédente émission, mais rappelons que Kenny Pickett a été recruté par Matt Rhule à l'époque où il était coach de Temple. Hein. Donc, il y a une attache. Après, c'est toujours la même question et c'est un petit peu ce qu'on disait avec les Jaguars tout à l'heure. C'est qui sélectionne vraiment en interne du côté de Carolina. Ça va être le principal élément déterminant pour savoir qui du head coach ou du general manager a vraiment on va dire, le joueur qu'il désire à l'issue de ce premier tour. Victor, du coup, dans les sélections des uns et des autres.
Écoute, il y a Chabaloutre qui dit qu'il faut protéger Baker Mayfield. Alors, il s'enflamme un peu, hein, il n'y est pas encore.
Il y a des infos qu'on n'a pas, Chabaloutre.
Oui, mais bon, après, voilà. Ça, en fait, ça projette beaucoup. Là, ça part de Carolina, mais aussi des Falcons en conséquence. C'est est-ce que si tous les quarterbacks sont disponibles, est-ce que les Falcons vont se jeter sur un lanceur? On voit comment ça parle de. Il y a des besoins partout, il n'y a pas besoin de quarterback, il y a besoin d'un offensive tackle. Ça part plutôt sur offensive tackle, là, pour l'instant.
Très bien, bon, on va voir ça dans quelques secondes. Le choix qui ne devrait plus tarder à être annoncé, ça va relativement rapidement. Hein. Je dis relativement, alors que bon, il y a eu 5 choix annoncés, alors que c'est démarré depuis quasiment 40 minutes.
Et là, ils te mettent une pause commerciale pour te faire plaisir.
Oui, c'est ça, histoire de faire tourner un petit peu la machine à billets. Mais voilà, en tout cas, dans les principales interrogations, alors c'est sûr qu'on parle beaucoup de Kenny Pickett, il y a en effet cette possibilité que Malik Willis également soit sélectionné. On sait qu'il y a eu une grosse hype le concernant, notamment lors du Senior Bowl et du Combine. C'est peut-être le quarterback qui a marqué le plus de points, à mon sens, durant le processus de draft. Et forcément, ce n'est pas forcément un joueur à mettre de côté. C'est vrai que c'est pas forcément judicieux de le comparer. Enfin, je pense pas que la comparaison, et t'en parlais tout à l'heure, Victor, il me semble, c'est pas forcément un Cam Newton, mais voilà, c'est vrai qu'il y a en tout cas des attributs assez similaires quand on sait que Cam Newton a été utilisé l'année dernière. Alors, il y a un changement de coordinateur offensif, mais voilà, c'est pas impossible non plus que Carolina se dise, bah tiens, éventuellement Malik Willis, ça peut fitter dans le nouveau système offensif dirigé par Ben McAdoo. Ça va être annoncé a priori dans quelques secondes à peine. Roger Goodell arrive, je l'aperçois, et on va connaître cette 6e sélection des Panthers. Donc. Oh, avec le 6e choix, les Panthers sélectionnent Ikem Ekwonu, tackle d'NC State, qui reste du coup dans son état, j'allais dire local, oui, c'est ça, oui, dans l'état dans lequel il évoluait à l'université. On est donc resté sur un tackle, on s'attendait à Charles Cross. Ikem Ekwonu, Jean-Mi, je te vois en sourire. Bonne pioche malgré tout pour les Panthers.
Oui, oui. Non, moi, ce qui me fait sourire, c'est le costard, quoi. Restez oui, simple, les gars. Oui. Ah ouais, je te jure. Non, jouer la sobre, c'est mieux. Mais bon, bref, ouais.
Oui, très, là, très bon joueur. Je suis pas aussi spécialiste qu'Alain pour décrire les tenues, les costumes. Et oui, c'est un costume blanc, mais du coup, avec une bande un peu rayée. Verte, enfin, bon, c'est pas très esthétique.
Ouais, je sais pas. Après, peut-être que d'après son nom et puis la couleur, peut-être qu'il a des origines.
Ah oui, c'est
Nigeria,
vrai qu'il y a un hommage. Oui, il y a un hommage au Nigeria. Oui, ça, je l'ai vu.
Ah bah alors voilà. Bah alors oui, c'est pour ça. Alors ok, d'accord. Voilà. Ok. Bon, écoute, c'est un très bon tackle. Voilà, c'est quelqu'un de hyper puissant. Voilà, il défonce tout le monde. On dirait des fois un homme avec des enfants. Donc bon, alors en NFL, ce sera différent, évidemment. Mais c'est vraiment quelqu'un de très très puissant qui a l'air très très fiable. Et il leur fallait absolument un tackle gauche. Alors, se poser la question par certains, est-ce que vraiment il pourra jouer tackle? Mais il manque peut-être quelques centimètres, mais il a l'envergure, il a vraiment le jeu. À NC State, il a joué tackle, il n'a pas joué guard. Donc, moi, j'ai assez peu de doutes. Je trouve que c'est un très bon choix. Et tu vois, voilà, pas s'orienter sur un quarterback moyen, on ne sait pas. Non, prendre un très bon tackle offensif et on construit l'équipe. Ça me paraît intelligent.
Tout à fait. Victor, Ekwonu, Ikem ou Ikem pas?
Et il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas que l'université. Hein. Il est né à Charlotte, hein, si je
oui,
ne dis
voilà,
pas de bêtises.
Donc, je viens de préciser.
Un peu comme Hutchinson, un choix local, on va dire. Écoute, moi, je trouve que les critiques sur le fait que ça soit un garde et pas un tackle, c'est exactement les mêmes critiques qu'on a fait à Setter l'année dernière. Et Setter, c'est déjà un top 10 tackle de cette ligue. Donc, moi, je ne vois pas le problème. S'il est numéro 1 sur ton board, fonce. Donc, il sera à gauche. Moton sera à droite. Pour moi, ça me va très bien. C'était le bon choix, je pense. C'était le bon choix.
Oui, mais en tout cas, ça va renforcer très clairement les rumeurs concernant la possible arrivée d'un quarterback vétéran du côté de Carolina, que ce soit Baker Mayfield ou Jimmy Garoppolo, parce qu'a priori, c'est les deux noms qui semblent principalement se dégager dans l'optique d'un trade. Après, il faudra voir ce que met Carolina dans la balance, mais ça va être en tout cas à surveiller par ce biais, parce qu'il y a peu de chances que... Enfin, en tout cas, c'est très peu probable que ce soit Sam Darnold, le quarterback titulaire au début de la saison 2022. Le deuxième choix de ce premier tour des New York Giants est fait, le septième au total. Donc, on va donc savoir dans quelques petites secondes. Je regarde un petit peu vos sélections. Alors, bon, bah, malheureusement, on avait deux votes pour Ahmad Gardner. Hein, c'est le cas de Jean-Michel et de moi-même. On avait un avec Aimé Kouanou pour Victor, donc ça aussi c'est tombé à l'eau. Par contre, on avait deux sélections de Jermaine Johnson pour Alexandre et Sébastien. Ça, c'est encore d'actualité. Alors, c'est peu probable maintenant que Kevin Thibodeau a été déjà drafté. A priori, on se dirige vers un tackle, messieurs, plutôt Neal ou plutôt Cross? Victor.
Bah écoute, si j'ai pas envie de faire bouger Andrew Thomas et j'ai envie de laisser à gauche, je dirais plutôt Neal, pour le coup. Ça me paraît être choix logique. Je regarde un peu sur le chat. Bon, ça semble se diriger vers un offensive tackle. Hein. On est à peu près tous d'accord. Kunusagi et je regarde. Ouais, ça
vas-y, pendant que tu regardes, Jean-Mi, t'as un avis toi là-dessus? J'essaie de ne pas trop traîner parce que manifestement ils ont lancé les choix assez vite. Neal ou Cross de ton côté?
Oui, moi je dirais Neal aussi, mais du coup avec ce draft qui nous rend fou là, tu vas voir, ça va être Kyle Hamilton, voilà.
Ah, c'est possible, mais... hein, ça peut être considéré comme un des meilleurs joueurs du plateau.
Ouais. Ouais, mais sinon oui, Van Neal, ça serait un très bon choix, ouais, effectivement.
Et puis bon, tu as parlé d'aller... un duo Xavier McKinney, Kyle Hamilton.
Ouais. Et puis tu as parlé du choix d'Alexandre Locke tout à l'heure, ça me permet de le saluer, il est actuellement
tout
sur
à fait,
le site.
Qui bosse sur la résumé, ouais.
Voilà, il fait les choix à l'écrit, avec aidé par Elliot Salmon aussi, donc on les salue tous les deux.
Tout à fait, tu viens de le préciser, je voulais le préciser tout à l'heure, mais c'est très bien de le faire dès à présent.
Et puisqu'on y est, excuse-moi, il y a aussi notre ami Plax, on pense à lui là, il doit être oui. Comme un fou. Notre ami Plax qui donc travaille avec nous sur Tajina Actu, qui fait notamment ses superbes vidéos, les tableaux noirs.
Alors, oui, je te coupe Jean-Mi, du coup, on va annoncer la sélection des Giants avec le septième choix. Les Giants sélectionnent Evan Neal, tackle d'Alabama. Bon, il y avait des rumeurs hein, qui évoquaient le fait qu'il était très 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 haut sur le board des Giants. Bonne opération globalement quand même, Kevin Thibodeau et Evan Neal, tout à fait. Hein. Et Jean-Mi aussi, il a sa casquette. Il n'est pas drafté, mais il a aussi sa casquette à la maison. Ouais. Donc, on ne connaît pas encore l'avis de notre camarade Plax. Mais du coup, Thibodeau, Neal... Ouais. On s'en sort pas trop mal avec les 5e et 7e choix du côté des Giants.
Ah, ça me paraît très solide même. Hein. Ah ouais, ouais. Mais tu vois, Victor, sur le choix de Travon Walker, on en discutait un petit peu de la production à l'université, etc. Ben voilà, Kevin Thibodeau et Evan Neal, deux joueurs qui viennent de programmes majeurs du football universitaire, deux joueurs qui ont été très performants au plus haut niveau universitaire. Ça donne quand même quelques assurances, hein, effectivement.
Ouais, moi je trouve que c'est une très bonne draft pour les Giants. Enfin, je veux dire, on sait hein, renforcer les lignes, c'est quand même la base du foot américain. Non, très bonne draft. Ils ont un vrai monstre sur la ligne offensive qui sera complémentaire d'Andrew Thomas. Ils ont un vrai monstre en défense. C'est tout bénef pour eux.
Ouais. Bien joué les gars.
Tout à fait. Des réactions sur le chat, Victor, alors que je commence à me décomposer.
J'ai envie de dire qu'il y a une pluie d'hommages. Hein. Très bien, super choix. Même certains. Attends, Ah, pour manger des aigles, apparemment, c'est bon choix. Alors ça, je ne sais pas. Hein. Écoute, la dernière fois qu'ils ont mangé de l'aigle, on était dans le siècle d'avant. Donc, pourquoi pas. Mais non, ça, je pense que tout le monde est conquis. Tous les fans des Giants ont l'air heureux. Waouh, ça améliore une équipe, ça. Bah, tu m'étonnes. Merci les Texans. Ah oui, alors il y a carrément des remerciements sur ce qu'ont fait les équipes d'avant. Écoute, c'est un hommage unanime. Et certains parlent de Kyle Hamilton aux Falcons. Ah.
Bah, ouais, quoi.
Alors, il y a des rumeurs.
Parce que c'est toi, la star. C'est toi qui.
C'est ça, ouais. Il y a des rumeurs qui évoquent le fait que, un peu sur la même logique que l'année dernière, le board des Falcons privilégie le meilleur joueur disponible, tout simplement. Là encore, on s'appuie vraiment sur des échos, hein, mais il y a peu de chances que ce soit un quarterback dès le 8e choix. Encore plus quand on voit que là, il n'y a pas de quarterback sur lesquels tout le monde se rue sur les 7 premiers choix. Il y a deux possibilités qui ont l'air de tenir la corde malgré tout, c'est receveur et edge. Très franchement, je pleurerais des larmes de sang si on part sur un receveur dans cette classe-là. Je sais qu'on n'a pas de receveur numéro 1. Mais franchement, j'aurais vraiment du mal à comprendre cette logique d'aller reacher, je pense qu'on peut le dire, pour un receveur en 8, alors que pour moi, des bons receveurs, tu peux en avoir dès les positions 15-16. Je ne suis pas sûr que ça va beaucoup, beaucoup reacher vu les précédentes sélections qui ont été effectuées. Moi, je dirais Edge. Hein. Moi, j'aime beaucoup Jermaine Johnson depuis le début. À un moment donné, je sais qu'il faut un quarterback, je sais qu'il faut un receveur, je sais qu'Atlanta a habitué à affoler les stats et les yards pendant l'ère Matt Ryan. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même pas oublier que les Falcons ont eu quoi, 17 sacks sur la saison dernière.
Alors c'était les 32e.
Et l'avant-dernière équipe en avait 28. C'est dire le gap monstrueux qu'il y avait dans cette équipe-là. Et pourtant, la défense, paradoxalement, n'était pas mauvaise. Mais c'est un problème qui est beaucoup trop prégnant, je trouve, depuis le départ de Jermaine Johnson. Le choix a été fait officiellement par les Falcons. Voilà. Moi, j'aimerais beaucoup Jermaine Johnson. Et après, on voit ce qu'on peut récupérer derrière. Mais voilà, si on part sur la logique du meilleur joueur disponible, peut-être Kyle Hamilton ou un autre qui leur plairait tout particulièrement. Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, comme toi. Jermaine Johnson, ça me paraît très cohérent, mais également Kyle Hamilton. Je veux dire, vous avez personne en safety, il faut un playmaker en défense. Le manager, c'est un ancien safety, Terry Fontenot, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, je ne prendrais pas un quarterback. Ce serait Jermaine Johnson ou Kyle Hamilton.
Victor, ton avis est celui du chat.
Bah, écoute, moi, j'ai le même avis que vous, donc je ne vais pas répéter. Le chat nous dit Greg en tachycardie. Ça parle de quarterback, évidemment, ça parle de la suspension de Ridley, mais comme tu disais, c'est pas forcément pour toi la priorité receveur. On nous demande des running backs, alors pas encore, mais ne soyons pas. Ah, je vois un commentaire de Tim Scud qui résume ça. Quel merdier Atlanta! Oui, on peut le résumer comme ça. Hein. Je pense qu'il a regardé la depth chart. Donc, voilà, là, ça parle un peu des choix d'avant. Bon, globalement, ça parle de Willis, ça va go receveur, je pense,
bah, écoute,
un quarterback.
On va le savoir tout de suite, hein, parce que Roger Goodell arrive.
Je colle le Drake London.
C'est parti. Avec le 8e choix. Les Atlanta Falcons sélectionnent. Oh mon Dieu.
Ah non.
Moi, je n'ai pas le choix. Hein. Moi, j'attends hein, que vous me disiez.
Drake London, receveur de USC. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Là, c'est non, plus mais... des larmes de sang qui vont couler. Là, c'est autre chose. Hein. Oh là là là,
est-ce qu'on peut clipper sur Twitch la réaction du pauvre Grégory? Alors je vais reprendre un peu le lit parce que là je crois qu'il a besoin de respirer. Jean-Michel,
oh, mais c'est incroyable.
Une analyse.
Oui, mais je te fais une image. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Je veux dire, déjà, un receveur, c'est incroyable. En plus, Drake London. OK, il est très fort pour les 50-50, mais il ne fait aucune séparation. Enfin, Drake London.
Il est parti, voilà. Grégory. Il est parti. Au revoir, Grégory.
J'ai trop souffert.
Non, mais c'est
le
choix.
Je suis pas venu là pour souffrir, OK.
le plus what the fuck que j'ai jamais vu, quoi.
Et écoutez, je vais vous donner la liste des receveurs incapables de faire de la séparation qui ont fait une grande carrière durable. Voilà. Donc, donc voilà la liste. Ça va tanker pour Bryce Young. Bah, peut-être que c'est ça l'enjeu. Je regarde un peu le chat. La gueule de Drake London. Au moins, on ne l'aura pas aux Eagles. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Bravo.
Oui.
Quitte à prendre un receveur, autant tenter un Jamison Williams. Oui, ça aurait pu, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ils ont fait ça? Oh, la surprise. Qu'est-ce qu'ils font comme intersaison? Oh, je meurs. Greg en PLS. Le board a fumé du crack. Ils en fument de la bonne en général.
Ils ont récupéré le masque de Tennessee.
Ah ouais, apparemment, ils ont acheté le NFT du masque de Tennessee. Ils ont dit... Oh, Drake London, c'est bien ça, London Calling. Ouais,
c'est
alors,
pas
Greg,
facile, hein.
Greg, justifie-nous ça. Qu'est-ce qui fait de Drake London un joueur générationnel qui va pouvoir recevoir les saucisses de Marcus Mariota?
Bah, écoute, bonne question. Clairement, c'est pas mon receveur préféré. Hein. Je pense que je m'en suis jamais caché. Quitte à partir sur un receveur, j'aurais préféré un des deux d'Ohio State ou Treylon Burks. Alors on me dira peut-être qu'Atlanta avait peur de ne pas avoir de vrai receveur numéro 1 pour la saison prochaine si comment dire à partir du deuxième tour, mais peut-être qu'ils estiment qu'ils peuvent avoir des edge rushers ou des quarterbacks plus ou moins décents un peu plus bas. Ce qui m'inquiéterait un peu plus, c'est qu'ils considèrent que Drake London était le meilleur joueur disponible sur le big board. Mais bon, encore une fois, on en revient toujours à la même chose avec Atlanta. C'est ça qui est bien, c'est que moi, j'ai aucun problème avec le fait de drafter des receveurs très hauts, des cibles, etc. Mais même si tu n'as pas un receveur au sens stricto sensu numéro 1, ton joueur générationnel en attaque est un joueur qui est capable de capter un nombre de ballons impressionnant. Donc techniquement, tu as une cible numéro 1. Donc voilà, ça ne me paraissait pas un besoin vraiment absolu, encore moins en numéro 8, encore moins en vue de cette classe. Voilà. Je pensais que la plus mauvaise décision du board d'Atlanta pour l'intersaison, c'est d'avoir poursuivi Deshaun Watson. Bah, visiblement, il continue un petit peu sur cette lignée-là. Donc, bon. Je suis content. Ouais. Je suis content que ce soit mon équipe qui ait animé cette draft, mais j'aurais préféré d'une autre manière.
On a le chat qui nous dit « Après, si Mariota lance des pizzas, autant avoir un receveur qui gagne les 50-50. »
Ouais. Oui, oui, ouais, on va dire. Mais bon, en tout cas, les Seahawks sont toujours sur l'horloge. Il reste 4 minutes 20. Je vais essayer de me refocaliser, même si ce n'est pas évident. Bon, je ne vous demande pas votre avis, mais c'est parce que du coup, Jean-Michel a fait des grimaces. Victor a eu un fou rire.
Enfin, je veux dire, il y a un moment. Je veux dire, déjà, choisir un receveur, c'est étonnant, même si moi, j'avais justifié ce choix du receveur de la pastille. Par contre, London, enfin. Moi, vous l'avez vu dans mon board, hein, il est 40e et des patates, il est 6e ou 7e receveur, quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut considérer qu'un joueur qui n'arrive pas à faire de séparation puisse avoir une carrière durable en NFL. C'est des Alshon Jeffrey, tu peux faire une ou deux bonnes saisons, j'ai du mal à croire une carrière, peut-être qu'il va me faire manger mon chapeau. Il faut avouer qu'il n'a pas été aidé par un quarterback peu inspiré à USC, hein. On ne va pas se mentir.
Ça tombe bien, Atlanta, il aura un playmaker.
donc voilà, après, je dois avouer que je suis assez choqué, un peu triste pour toi, je dois t'avouer. Ils sont passés à deux doigts de prendre un joueur générationnel deux années de suite. Alors moi, j'aurais acheté mon maillot, tu vois, mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Là aujourd'hui... Je pense que Atlanta a intérêt à le justifier en conférence de presse rapidement parce que sinon, on va y avoir des émeutes. Mais bon, écoute, on n'a plus qu'à espérer pour vous qu'il fasse une carrière bien meilleure que ce qu'on imagine. Et là, c'est en train de parler des Seahawks hein, maintenant.
Oui, tout à fait. Justement, avant qu'on le sache, alors ce n'est pas officiel, Camille, si tu es dans le coin, est-ce que tu as une préférence? Alors, tu connais peut-être pas forcément autant les prospects que nous, mais au moins un poste.
Non, pas spécialement, pas de préférence. Non. Voilà.
D'accord, très bien. Tu t'adapteras. On rappelle que les principaux choix qui revenaient, outre le possiblement la question d'un quarterback, hein, parce qu'il n'y a toujours pas eu de QB, alors que la sélection a été faite à l'instant même. Donc, il n'y a pas eu de QB pour l'instant sélectionné. Ça reste une possibilité du côté de Seattle. Hein, on ne sait pas si Drew Lock est vraiment une solution d'avenir. après, Charles Cross est disponible en tackle. Il n'y a plus vraiment de cornerback, puisque c'était le deuxième poste un peu flashy les concernant. Charles Cross, clairement, sur ce choix-là, Jean-Mi, qu'est-ce que tu en penses ?
Ah oui, clairement. Clairement, ce serait vraiment le choix. Ils ont besoin d'un tackle offensif. Il y en a un qui est très bon, ce serait le choix. L'alternative, à la limite, ce serait un pass rusher, Jermaine Johnson. Ce ne serait pas du luxe non plus. Mais sinon, oui, Charles Cross, s'ils font un choix différent, ben voilà, ce serait wow.
Ouais, bah c'est bien d'attendre que Russell Wilson ne soit plus là pour le protéger, mais c'est un choix audacieux. Moi, je donnerais une autre alternative, c'est cornerback. Parce que je pense que c'est le besoin numéro 1.
Ah ouais, mais quand même, dans le top 10. J'aime bien McDuffie, mais top 10.
Je sais pas. Tu vois, parfois, il y a des trucs qui m'étonnent. Genre, dans tous tes mocks, quand tu mets McDuffie en 9, c'est trop haut. Quand tu mets McDuffie en 12, c'est parfait. Donc, je ne sais pas, est-ce que vraiment il y a une différence fondamentale entre 9 et 12 ?
Non, c'est pas du tout ça mon propos, en fait, Victor. Ce n'est pas une question de 9 ou 12. Bon, moi, déjà en 12, je trouvais que c'était trop. Mais ce n'est pas une question du spot, en fait. C'est une question de par rapport aux joueurs disponibles. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que pour moi, McDuffie, ça serait trop maintenant parce qu'il reste Charles Cross, parce qu'il reste Jermaine Johnson. Alors, bon, je ne compte pas Hamilton vu qu'ils ont Adams, mais par rapport aux joueurs disponibles, c'est par rapport à ça. Parce qu'après, sinon, tu as tout à fait raison. Que tu prennes un joueur avec le choix 10 ou le choix 25, peu importe. Je veux dire, tu prends un joueur qui est bon, qui te plaît, qui va dans ton système. C'est pas ça. C'est par rapport aux joueurs dispo, ça me choquerait traite McDuffie, quoi, avec Charles Cross dispo. Après, pourquoi pas?
Non, mais moi, je donnais juste une alternative pour varier un peu les possibilités, mais je suis comme vous, hein, moi, j'aurais pris Cross. Donc là, ça parle. Bon, principalement, ça réclame Cross, hein, on va pas mentir. Bon,
on va le savoir tout de suite, Victor, parce que du coup, Andrew Woodley est sur le podium. Avec le 9e choix, les Seattle Seahawks sélectionne
Charles
Cross. Voilà.
Bon, ben voilà, très bon choix.
State. On reste dans la logique du côté de Seattle. Voilà, comme le disait Victor, pour enfin protéger le quarterback, c'est un peu dommage d'attendre que Russell Wilson soit parti. Mais c'est grâce au pic de Russell Wilson qu'ils arrivent enfin à trouver un successeur à Dwayne Brown. Jean-Michel, je te vois un peu être mitigé.
Qu'est-ce qui se passe à Seattle? Je veux dire, ils nous ont tellement habitués à faire des choix. What the fuck? Ils vont prendre Rashad Penny au premier tour. Ils vont prendre. Et puis là, d'un coup, ils font un choix propre, logique, qui paraît cohérent. Oui, je suis surpris, mais très, très bon choix. Très bon choix.
Oui, c'est vrai.
Moi, je suis d'accord. J'attendais Jordan Davis voilà. Cette année.
Ouais, le Jordan Brooks 2.0. Ouais.
Jordan Brooks,
Ouais, ouais. Ben écoute, voilà, ils seront mis l'esprit à l'endroit. Pete Carroll, c'est comme le bon vin, il vieillit bien. Charles Cross, c'est très très bon choix, très bon. Mais c'est vrai que
Russell Wilson, Atlanta leur a piqué Drake London, donc ils ont dû se rabattre sur deuxième meilleur choix disponible.
On change de sujet, monsieur Roulier, ça suffit.
C'est peut-être ça, ouais.
Le 8e choix est passé. On va attendre d'ailleurs la 10e sélection avant de faire peut-être un petit cut très rapide pour permettre justement de faire le switch entre les différentes émissions que vous pourrez retrouver en replay, en tout cas les différentes parties que vous pourrez retrouver en audio. Je précise d'ailleurs, j'y suis pas revenu systématiquement hein, parce que je ne vous le cache pas concernant les mocks réalisé par les différents chroniqueurs de l'émission.
On est sur du 0 sur 9.
Ah bah, en tout cas, alors une personne se détache avec trois bons choix sur 9. Je ne donne pas son nom, mais elle parle directement au micro. Mais, mais en tout cas, ouais, sinon, c'est un peu compliqué. Notamment, les pics 9 à 8, les pics 3 à 8, pardon, ont fait beaucoup, beaucoup de mal sur cette mock draft. Mais voilà. Camille, content d'avoir un tackle gauche
Bah oui, non, c'est le meilleur joueur disponible a priori, donc pour moi ça me convient. Ouais.
Très bien. T'as l'air rajouter quelque chose, Victor?
Oui, alors j'ai freeze à ce moment-là, mais j'ai quand même, pardon, je me projette sur le choix 10, mais j'ai quand même une pensée pour Jets FR, parce que je me rappelle d'une mock où ils ont eu Ahmad Gardner et Kyle Hamilton, et Jean-Mi l'a rappelé, et où il nous a expliqué qu'on ne comprenait rien au football et que jamais il ferait ça. On est à un Kyle Hamilton près, messieurs, du choix foot defensive back, choix très patriote.
Apparemment, vous avez des comptes à régler avec les fans des Jets.
Non, on l'adore, pour le coup. Ouais. On les adore, mais c'est vrai que ça serait rigolo. Je vais ressortir son tweet si ça arrive.
Mais alors, il me semble que ça a été fait dans une précédente mock, hein, mais si on veut continuer de blinder un petit peu, on en parlait tout à l'heure pour le choix numéro 4, ils ont préféré partir sur un corner. La ligne défensive, si on reste sur la logique, ça reste possible. Jermaine Johnson est disponible, George Karlaftis l'est également.
Oui, Jermaine Johnson, moi, ça me paraît être un choix très cohérent. Après, évidemment, on ne peut pas exclure un choix d'un receveur, un Garrett Wilson, par exemple. Mais, mais je pense que Jermaine Johnson, ce sera un choix encore plus solide qu'un receveur, parce qu'il ne faut pas oublier que les Jets, demain, ce sera vraiment une équipe à surveiller. Ils ont deux choix très hauts dans le deuxième tour. Il y aura forcément au moins un très bon receveur là, à ce spot-là. Donc, ça serait bien d'y aller sur un super pass rusher. Mais bon, receveur, pourquoi pas.
Moi, je suis d'accord. Pour moi, la priorité, ça doit être Jermaine Johnson. Après, receveur, si tu es amoureux, encore que ça me paraît haut. Hamilton, si tu es amoureux, c'est pas non plus injustifiable, hein, loin de là. Donc, il y a beaucoup de directions.
Très bien. Vous l'avez entendu avec la petite alerte sonore. Le choix des Jets, en tout cas, est réalisé. Il n'y aura pas de trade dans ce top 10. En tout cas, pas de trade supplémentaire par rapport à ceux qu'on connaissait déjà en amont de cette draft. Donc, on va
donc pas de Deebo Samuel déjà.
Donc, pas de Deebo Samuel, tout à fait. Pour l'instant, il reste un joueur des 49ers.
Aucun trade hein, pour l'instant. Bon, il faut dire, il y a déjà 8 équipes qu'on trade out au premier tour.
C'est vrai.
Victor, il a décidé de répéter ce que je viens de dire.
Pardon.
Mais c'est vrai, c'est surprenant. Ouais. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'une équipe monte dans le top 10 pour prendre un quarterback, par exemple, ou même un pass rusher. Mais ouais.
Mais Victor, du coup, il n'y a pas de trade dans le top 10, on est d'accord.
Il n'y a pas de trade, oui, c'est ça. Alors, là, sur le chat, ça dit ouais, trop Karlaftis.
Ouais.
Karlaftis, si c'est… Ah non, ça débat. Il y a deux écoles. Il y a l'école Karlaftis trop haut et Karlaftis OK. Ça nous parle de Olave, de Wilson.
Ouais, Karlaftis a perdu un peu de cote hein, aussi, mine de rien. Ces derniers temps, on est plus aux alentours des pics 15-20 que vraiment aux alentours du pic 10. Après, on a vu que voilà, si, sur les précédents choix, si des équipes étaient amoureuses d'un joueur, ils ne se gênaient pas forcément pour aller le chercher relativement haut. A priori, le choix va être annoncé dans quelques secondes. Roger Goodell va nous annoncer le 10e choix des New York Jets est Garrett Wilson, receveur d'Ohio State. Oula, j'avais pas vu sa tenue aussi, son costume. Oula, oui.
Ça envoie du lourd.
Là,
Ah ouais.
C'est impressionnant. Il y a un costume à double face, côté gris, côté blanc.
Non, mais il a fait un crochet par Atlanta. Il est allé fumer avec des gars avant, je pensais.
Mais là, vous n'avez pas encore vu le costume de Jermaine Johnson.
Ah ouais.
Vous allez voir. Vous allez voir que c'est le meilleur.
En tout cas, Garrett Wilson, on en pense quoi, Victor?
Bah écoute, receveur extrêmement complet. Pour le coup, adaptable à de nombreux systèmes. Donc, c'est jamais une mauvaise idée de donner une cible à ton jeune quarterback. Hein. Encore une fois, on disait il y avait beaucoup de directions. Donc, moi, je préfère Olave, qui pour moi est vraiment le meilleur coureur de tracé, mais je comprends que Wilson soit plus rassurant. On va dire qu'il coche toutes les cases. Il coche les cases physiques, il coche les cases de vitesse, de main, de tracé. Il est complet. Il n'est peut-être pas le plus impressionnant, mais il est complet. Et je vois que sur le chat, ça fait Wilson to Wilson. C'est vrai que là ça part. Wilson to Wilson, Wilson to Wilson. Et tout le monde semble enthousiaste à l'idée de ce choix.
Eh bien, écoute, tant mieux. Jean-Michel, ton avis sur Garrett Wilson aux Jets?
Oui, c'est un très bon choix. Écoutez, c'est un super receveur. Moi aussi, je préfère Chris Olave, mais Garrett Wilson... Comment dire, c'est le genre de joueur vraiment doué. C'est la recrue 5 étoiles qui sort du lycée. Il va dans une super fac pour le football. Il performe très, très bien dans une grosse conférence. Le gars, il est sur une trajectoire comme ça, ascendante. Il sait un petit peu tout faire, c'est-à-dire qu'il court de bons tracés. En même temps, il est plutôt rapide. Tu peux le mettre dans le slot, tu peux le mettre à l'extérieur. Tu peux t'en servir en red zone, tu peux t'en servir de tellement de manières. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Tu as un jeune quarterback, Zach Wilson. C'est très bien de lui amener une cible comme ça de première qualité parce qu'ils en ont. Il y a Corey Davis, il y a Berrios, il y a Mims, etc. Ils ont pris des tight ends aussi, mais ils n'ont pas vraiment de numéro un. Et Garrett Wilson, c'est un numéro un. Je veux bien qu'il manque peut-être un petit peu de taille dans l'esprit de ce qu'on pense d'un numéro un, mais c'est un receveur numéro un. Donc, c'est un très, très bon choix. Moi, ça me plaît beaucoup.
Bon, on va se dépêcher juste de faire une petite transition. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la deuxième partie de cette draft, puisqu'on a un événement majeur qui vient de se passer. À tout de suite.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.